de rencontre et à bien d'être là.
Oui, nous ne sommes pas des pitonistes, on n'essaie pas de savoir ce qui va se passer tout de suite dans les mois qui viennent, mais l'objet de notre travail, c'est d'essayer de voir comment les choses vont évoluer. En particulier, est-ce que les choses vont continuer qu'un cas, jusqu'à quand on ne sait pas trop. Est-ce que on peut espérer, certains espèrent notamment des États-Unis, que les choses repartent. On a misé sur la Chine, pas pour aller trop marcher, sur les briques, ça ne marche pas trop. Alors sur les États-Unis, peut-être que dire quelque chose qu'on peut espérer de cette. Est-ce qu'il y a une reprise américaine et qu'est-ce qu'on peut en espérer, observateur bien placé, ou est-ce qu'on va, vers un nouveau crash vraiment financier, et plus que financier d'ailleurs, puisque la crise n'est pas seulement financière. Et subsidiairement, j'ai cru comprendre qu'on sait que ça n'est pas en redressant d'abord, en donnant une priorité au redressement du système bancaire, qu'on fera repartir la machine, mais c'est au contraire en relançant l'économie, par les moyens qui ont été utilisés notamment au moment du New Deal. Donc refaire partir l'économie, donner de l'argent aux gens et aux entreprises, faire partir les économies, et c'est qu'après qu'on pourra, pourra redresser le système financier et retrouver un régime de croisière. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Alors comme c'est l'opposé de la politique qui est menée en Europe, j'aimerais bien venir de votre sentiment sur cette stratégie de fond. Merci encore.
Merci beaucoup.
Si vous le voulez bien, M. le Président, on va vous laisser la parole tout de suite. Et puis ensuite, si certains de nos collègues ont des questions, eh bien, elles seront les bienvenues. Je vous en prie.
Très bien. Merci, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Président, Pierre-Yves, chers collègues. Je suis très content d'être ici, d'avoir l'occasion de partager avec vous certaines idées dont la plupart ont été discutées dans un livre qui s'appelle en français « La grande crise », qui est sorti il y a 2 ans. Je vais aussi peut-être avoir quelques mots sur la situation en Europe. J'ai un livre qui sort même aujourd'hui, qui s'appelle « Crise grecque, tragédie européenne », qui s'agit bien sûr du travail que j'ai eu l'occasion de faire pendant le premier semestre de l'année 2015 à Athènes. Mais pour l'instant, je vais vous parler un peu de la situation générale, la situation de l'économie un peu globale, et surtout des conséquences et de la suite de la grande crise financière de 2007-2009. En quoi consiste cette crise? Pour certains, surtout parmi les économistes et les dévots de l'économétrie, ce ne fut qu'un événement comme les autres, un choc à la croissance normale et anticipée, un déséquilibre temporaire. Ceux qui détenaient ce genre d'idées ont été fort déçus ces dernières années. Si l'économie se trouve en relance ou en équilibre, c'est un équilibre fort inconfortable pour ceux qui sont responsables du bonheur commun. C'est-à-dire que la relance, s'il y en avait une, n'est pas satisfaisante selon ce qu'on aurait pu attendre après notre expérience d'après-guerre, de la période après-guerre. Alors, est-ce qu'il est possible que cette crise signifie autre chose? Qu'elle nous signale un changement profond dans les conditions de notre vie économique? Et que dans ce cas, il faut confronter des questions fondamentales. Je ne suis pas sûr, je ne peux pas être sûr. Mais la possibilité, voire l'hypothèse, existe La prudence dit qu'on la considère. Il existe une lacune dans la discipline d'économie conventionnelle. Elle s'agit surtout de la question des ressources, surtout des ressources énergétiques. Les économistes de la période d'après-guerre, depuis près d'un demi-siècle, ont pris l'habitude de négliger cette question-là et de se comporter comme si les ressources furent le don libre de la nature, et en même temps que si l'on pouvait disposer librement des dégâts. C'est une idée qu'on nous a enseignée à l'université même, il y a 40 ans, dans la préparation des économistes américains. On nous enseigne même l'idée de la malédiction des ressources, selon laquelle c'est les pays dépourvus des ressources, tels que le Japon, qui sont de nature les plus actifs, les plus entrepreneuriales et par conséquence les plus riches. Tout cela, je crois qu'il faut dire, c'est terminé maintenant. On sait très bien que la relance des États-Unis par rapport à l'Europe après la crise financière, dépendait en partie de la boule de schiste, c'est-à-dire d'une différence dans le coût des ressources entre les deux continents. On sait très bien que les difficultés du Japon font conséquence en partie de la catastrophe du Fukushima. C'est clair. Et alors, est-ce qu'il y a une règle générale à laquelle on peut avoir recours? Je crois que si, et qu'elle est même assez simple. Si les ressources deviennent plus chères, c'est qu'il nous faut davantage de ressources pour les extraire. Si nous avons obtenu un haut niveau de développement, c'est à cause de nos investissements dans le passé. Et c'est qu'il nous faut dépenser davantage en termes réels, ça nous coûte davantage en termes réels pour maintenir en fonction l'ensemble de ces investissements passés, c'est-à-dire de nos capitaux accumulés. Et s'il faut encore décarboniser et s'adapter au changement climatique, c'est qu'il faut y mettre aussi des ressources. Le capital, la recherche, les heures du travail. Donc, tout cela veut dire c'est en effet inévitable qu'elle nous reste un peu moins pour toute autre chose, soit pour les nouveaux investissements, soit pour le développement, soit pour la consommation de masse. Et par rapport à la production, les différences ne sont pas forcément très grandes, mais la proportion peut être même assez petite. Mais une petite proportion peut faire la distinction entre une économie de croissance et une économie de stagnation, même une économie en déclin. Alors, il faut faire un certain nombre de choix il faut choisir entre le renouveau et le maintien d'un certain niveau de consommation, c'est-à-dire entre la reproduction simple de la situation antécédente, surtout s'il y a un taux de population qui continue à s'accroître, ou si la proportion de la population hors travail, c'est-à-dire les chômeurs et les retraités, les jeunes, s'augmente en même temps. Alors, dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? On nous dit qu'il faut poursuivre une politique d'austérité. Mais je crois que c'est une erreur. Parce que la politique d'austérité mène à un gaspillage des ressources actuelles dont on a besoin. Ça, c'est la difficulté de l'austérité. C'est-à-dire, c'est une politique de la passivité, de la manque d'action quand il faut faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut investir pour renouveler nos sources d'énergie, surtout d'énergie soutenable et renouvelable. Donc, il faut investir. Ça va nous coûter quelque chose. Il faut mobiliser les ressources pour faire ça. Deuxièmement, il nous faut maintenir nos systèmes avancés, nos systèmes de transport, de communication, de santé, d'enseignement, de la vie civilisée et urbaine. Autrement, on n'a pas la possibilité de maintenir notre population. Alors, on ne peut pas revenir au 19e siècle ou 18e siècle. Ça est impossible dans la situation du monde actuel. Alors, ça nous coûte des ressources. Troisième point, il faut donc économiser sur les moyens de consommation qui ne sont pas strictement nécessaires, augmenter la consommation commune et minimiser les excès et surtout les excès qui sont dangereux, c'est-à-dire maintenir une distribution de la consommation qui soit plus égalitaire qu'avant, c'est-à-dire pour maintenir une population en certain confort, il ne faut pas qu'on tolère des excès et des activités trop dangereuses. Et parmi eux, il y a les armements, il y a les banques, il y a le charbon. Alors, pour choisir trois en particulier. Quatrième point, il faut protéger les vulnérables. Donc, les assurances sociales deviennent encore plus importantes dans cette situation qu'auparavant. Et il faut se souvenir aussi que c'était les assurances sociales qui ont nous aidé à sortir la Grande Dépression dans les années 30. On n'a pas attendu jusqu'à ce que l'économie retourne à la prospérité pour avoir l'État de Providence. On a fait l'État de Providence, surtout aux États-Unis, dans le New Deal, dans les années 30, au moment de la Grande Dépression, et c'est ça qui nous a aidés à mobiliser les ressources pour s'en sortir, et pour faire d'une façon efficace une certaine solidarité entre tous les citoyens du pays. Alors, cinquième point, qu'il faut choisir, comme j'ai dit, minimiser les dépenses les moins utiles et plus dangereuses. J'ai dit déjà les armements, le système financier qui est devenu depuis 20 ou 30 ans un système beaucoup trop grand, beaucoup plus coûteux en ressources réelles et sur le charbon et le pétrole. Mais non sur l'art, la musique, la science et la culture. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait actuellement en Europe et aussi jusqu'à un certain point aux États-Unis? On poursuit une politique qui ne fait pas les distinctions qui sont essentielles. Elle consiste en effet d'une réduction voulue du niveau de vie sans protéger les vulnérables, sans préserver les systèmes essentiels et sans faire provision essentielle pour un avenir soutenable et une planète sur laquelle nos descendants peuvent vivre. L'alternative n'est pas donc une croissance à outrance, n'est pas une politique du keynésianisme des années 30, mais une politique, intelligente qui soit adaptée à la situation actuelle et à nos besoins et à nos contraintes. Je crois que c'est une politique dans l'esprit quand même de John Maynard Keynes, qui a dit, bien sûr, d'une façon très fameuse, que quand les conditions changent, il faut changer d'avis. Mais je crois aussi qu'il faut, d'une façon fondamentale, abandonner l'idéologie et le dogmatisme qui dirige la politique économique et surtout en Europe. Une politique, par exemple, envers les pays du Sud et surtout envers la Grèce, qui soit une politique de la collection des dettes et une politique de la privatisation de tous les biens communs, tous les biens publics, y compris les plages de ce pays-là, et une politique qui va forcer en effet le chômage et l'immigration de toute la population active. C'est une politique qui est destinée à un échec fondamental, un échec qui va changer pour finir profondément la nature de cette Europe que vous avez construite depuis 50 ans. Alors, merci beaucoup.
Devant l'optimisme triomphant, je donne tout de suite la parole à Pierre-Yves Colombin, un autre grand optimiste.